Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et voici donc le sommaire de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé. Alors que nous sommes en partance pour le festival de l'Alpe d'Huez, nous allons consacrer deux coups de cœur cinéma aujourd'hui et deux comédies. En plus, ça tombe bien qu'ils sortent mercredi dans les salles. La première, c'est Le Clan, dans une poignée de secondes. Nous allons recevoir Jean-François Perron, Denis Brachini, Philippe Corti et bien sûr le réalisateur Eric Fraticelli. En fin d'émission, nous aurons une seconde comédie. Youssef Salem a du succès, Baya Kasmi la réalisatrice, Michel Leclerc, le co-scénariste, et Ramzi Bedia seront nos invités exceptionnels. On va également aujourd'hui parler de Piste Noire et de Balthazar saison 5. Constance Labbé sera notre invitée exceptionnelle. Nous allons parler également de 7e Ciel, la nouvelle création OCS, Sylvie Granotier, Féodor Atkin, Alice Vial, la scénariste et réalisatrice, et Justine Lacroix seront également nos invités. Et en exclusivité podcast aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Stéphane De Groot pour Lycée Toulouse-Lautrec, pour la deuxième soirée évidemment de ce soir sur TF1. Et puis en exclusivité podcast également, Jimmy Laporal-Trésor va être notre invité pour nous parler du film Les Rascals. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti!
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film Le Clan qui sort mercredi dans les salles. On a besoin de rire au cinéma en ce moment. Eh bien, ça tombe bien. C'est le film qu'il vous faut en ce moment, en ce début d'année comme ça. Eh bien, ça fait du bien de démarrer 2023 avec des films qui nous font rire. On a toute l'équipe qui est là avec nous aujourd'hui. Quel bonheur de vous recevoir. On avait eu la chance d'avoir Eric déjà l'année dernière pour Permis de construire. On avait beaucoup ri. Eric Fraticelli qui est avec nous, le réalisateur et comédien aussi qui joue Belette dans le film. Bonjour Eric.
Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver.
Exactement, moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver parce qu'on sait toujours qu'on va passer un bon moment. Jean-François Perron qui joue Achille dans le film. Bonjour Jean-François, qui était déjà dans Permis de construire et qui a un rôle beaucoup plus gros et qui fait beaucoup rire aussi. Bonjour Jean-François.
Bonjour, et c'était Achille aussi dans Permis de construire, donc je maintiens le cap. Bonjour à tous, merci.
Alors j'avais 203. Hein. Denis Brachini qui est avec nous aussi, qui joue Fred. Bonjour Denis.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Merci d'être là. Et Philippe Corti également qui joue Max, qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour, moi aussi j'étais dans le Permis de construire, mais j'étais portugais.
Oui, c'est vrai. Et puis plus petit rôle, là franchement tous les quatre, vous êtes vraiment complètement égaux tous. Qui a eu cette idée d'adapter cette pièce de théâtre? Je suppose que c'est toi Eric, mais surtout est-ce que quand tu as fait la pièce de théâtre, t'imaginais un jour l'adapter en film au cinéma?
Bah alors l'imaginer oui, après de la passer à la réalisation du projet c'est autre chose, mais dès qu'on jouait, ouais, je le disais souvent à mes camarades quand on sortait de scène et qu'on disait putain qu'est-ce qu'ils ont ri ce soir, on s'est encore éclaté, et on s'est dit ça serait super que ça devienne un film pour qu'il y ait encore plus de gens qui voient ça quoi. Et là tous les soirs après les avant-premières, on voit que les gens ont ri autant, et c'est un régal de voir qu'elle fonctionne en film aussi quoi.
Des gags, ça y va. Et franchement, en film, c'est très très réussi. Je le disais, c'est très rythmé aussi. Alors, on va planter un peu le décor ensemble. On a affaire à une équipe de bras cassés. Hein, ne se mentons pas. Qui loupe le casse, Belette est peut-être le plus bras cassé de tous, d'ailleurs, que tu incarnes, Eric. Et donc, ils ont l'idée du siècle lors d'un festival de cinéma. C'est tout simplement de kidnapper la plus grosse star de cinéma française. Sauf que rien va ne se passer comme prévu, parce qu'autrement, ça ne serait pas drôle, et c'est là que va arriver, évidemment, tout plein d'aventures avec la personne qu'ils ont kidnappée. J'ai bien résumé, Eric ?
C'est ça, c'est tout à fait bien résumé, voilà. Et Belette fait des bêtises comme d'habitude, et là, ils se retrouvent tous les quatre dans une situation un peu merdique, enfin, tous les cinq, parce qu'il y a la personne qui est séquestrée, et ils savent plus comment faire, parce qu'ils sont persuadés que la personne a vu quand même le visage d'un des quatre. Alors, ils savent plus comment faire, voilà.
Jean-François, qui joue Achille. Alors, je vais pas dire que c'est le plus viandard de tous, mais c'est celui qui est le plus trash, hein, dans ses propos, quand même.
Non, le plus naturel, hein. En fait, il change pas, il reste pragmatique, il doit être efficace, tout ce qu'il fait, ça doit rapporter quelque chose, et puis c'est tout. Il va droit au but.
Je me souviens de cet accueil un peu glaçant à l'hôtel dans Permis de construire. Là, vous êtes sorti de derrière le comptoir, et pas pour rien, mais voilà, que s'il faut arracher des yeux, s'il faut, voilà, il est là, s'il faut manger un cœur, un cerveau, voilà, Jean-François est là.
Mais s'il faut le faire pour que ça avance, il y a des situations quand même assez catastrophiques. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et avancer. Il faut faire ce qu'il y a à faire.
Alors, il y a un peu celui qui se pose en chef de clan. C'est Fred, joué par Denis. C'est le plus posé. C'est celui qui va toujours essayer de réfléchir avant d'agir, hein, parce que tout le monde a un peu sa casquette dans l'équipe.
C'est ça, c'est celui qui aurait pu faire autre chose, c'est celui qui a fait un minimum d'études, c'est l'intello de la bande, donc c'est le chef. C'est le chef parce que c'est celui qui réfléchit, et c'est celui qui lit Descartes, absolument, absolument, il lit Descartes, et il a compris Descartes, ce qui est quand même déjà encore un cap au-dessus, parce qu'à lire, je l'ai lu pour de bon, c'est coton, hein. C'est un français un peu suranné, on va dire. Et c'est un peu compliqué, ouais. Mais voilà, donc il a lu Descartes, il a lu quelques ouvrages sur la physique quantique, et voilà, c'est le chef, c'est celui qui tient les autres, en fait. Parce que s'ils étaient tous aussi fous les uns que les autres, ça partirait vraiment, ça durerait pas le temps du film, quoi. Ça s'arrêterait très très vite.
Oui, c'est vrai que ça serait dommage, en plus que ça dure pas au moins une heure et demie, et qu'on se régale. Alors, Philippe Corti, alors lui, il a tout plein de problèmes, il se pose tout plein de questions existentielles sur plein de choses différentes. Vous verrez dans le film, on va pas tout déflorer, bien évidemment. Comment on pourrait le qualifier, ce rôle de Max?
Max, c'est la pensée populaire, c'est-à-dire qu'il comprend pas l'obligation de mettre la ceinture de sécurité si on a envie de se fracasser la tête dans le pare-brise. C'est mon problème, pas le problème de la police. Voilà, j'ai envie de mourir comme ça, c'est comme ça. Il est contre tout. Il dit. Et puis après, il y a les questions existentielles, il y a les questions d'un homme de son âge, quoi, d'un homme de 55 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important à 55 ans? Je vous laisse deviner. Voilà, donc ce sont des questions. Et lui, de toute façon, c'est un râleur. Lui, c'est voilà. Moi, j'en ai marre qu'on me dise si j'ai le droit de fumer dehors, dedans. Si j'ai envie de fumer, je fume. Si j'ai envie de boire de l'alcool en conduisant, voilà. Et c'est comme ça.
Il y a une longue tirade d'ailleurs, que je parle vous, Philippe, que vous verrez dans le film, évidemment. Il dit tellement de vérité dans cette longue tirade. On va pas tout déflorer, mais on a l'impression de voir défiler en 2-3 minutes, en fait, toutes les absurdités du monde actuel dans lequel on vit.
Max, c'est la pensée populaire, mais c'est surtout le bon sens. C'est le voilà, il y a des trucs qui dépassent l'entendement pour lui, mais comme pour la majorité d'entre nous. Mais lui, il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Voilà, c'est une grande gueule, un râleur.
On va écouter la bande-annonce, évidemment. Le clan, ça sort mercredi au cinéma. On va revenir juste après avec notre joyeuse équipe pour parler de ce film qui va vous faire du bien en ce début 2023. Juste avant, Eric, j'ai un petit cadeau à te demander. À chaque fois que t'es au bout de ta vie, que tu te rends compte que t'as fait une bêtise dans le film, tu nous pousses un petit cri. Et celui-là, j'avoue, je l'ai adoré. Est-ce que tu peux nous le faire, là, maintenant, en live? Bande annonce. What you do, what you say.
Géographie.
Ça existe, ça.
Comment s'appellent les habitants de Hong Kong?
Il faut tous les noms. What you want
and what you make. Ah, parce qu'il y a aussi de la vraie et de la fausse moutarde.
Eh oui. C'est comme pour les cons. Il y a les faux et il y a les vrais. What you see
and what you hear. Et comment on fait pour savoir si c'est un vrai con ou un faux con?
Les vrais, ils posent la question. Everybody's talking
everywhere you go. Tout le monde court après l'argent. Trying to give another man a helping hand. Les tennismans, ils gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Les pilotes de Formule 1 gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Alors que vous avez déjà vu les femmes joueurs de ping-pong, vous?
Non.
Et pourquoi?
Je sais pas. parce que c'est des boudins.
Allez, on retourne sur le clan. C'est mercredi au cinéma. Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti, Jean-François Perron sont avec nous pour nous parler de ce film. Alors, je vais pas dire de ce film corse parce que franchement, vous allez voir partout. Mais il a été tourné en Corse et toujours fidèle à tes racines, Eric aussi.
Ben oui, c'était. Alors, la pièce ne se déroulait pas en Corse, hein, la pièce dont est tiré le film. Mais là, comme on devait passer à du cinéma, donc il fallait des paysages. Donc, on s'est dit, tant qu'à chercher des paysages, il vaut mieux qu'on aille les chercher chez nous parce qu'ils sont assez jolis, quoi. Après, le film, l'histoire du film, c'est pas axé sur la Corse du tout. Il faut pas s'attendre à voir comme un film sur permis de construire où l'ADN, c'était vraiment l'opposition des deux cultures, grande ville parisienne et la Corse. Non, là.
L'histoire aurait pu se transposer n'importe où.
Exactement. Là, l'histoire, elle est plus basée sur les profils des personnages, leur proximité, là, qui est un peu paradoxale, mais pourtant, ils sont tout le temps ensemble. Puis, la présence de l'otage, là, et ça fout le bordel dans leur quotidien. Enfin, bref, et toutes les conneries. Ça, c'est vraiment le sujet. La Corse est là comme support physique, mais pas vraiment un support d'écriture, on va dire. Quoi. C'est pas l'histoire du film, ça.
Elle est géniale, Joséphine Demeau.
Ah ben, elle joue super bien. Si son rôle n'est pas réussi à l'interprétation, ça marche pas. Et elle le réussit très bien.
Et vous allez découvrir que ce n'est pas n'importe qui que vous avez kidnappé, mais ça, pour ça, il faudra aller voir le film. Quelle est la scène pour vous qui vous a le plus marqué, chacun, Philippe? Alors, que vous avez peut-être le plus aimé? Ou adorer. Ah, les deux, c'est au choix. Je laisse au choix. Ça peut être d'ailleurs un moment devant ou derrière la caméra en voyant jouer les autres.
Moi, je suis toujours émerveillé par la même scène parce que j'ai joué cette pièce et puis j'ai fait le film. Mais quand l'otage appelle Belette et que Belette et que lui il est seul dans la pièce, il dit moi. Voilà.
Des petites choses toutes simples comme ça.
Mais non, mais je trouve que c'est tellement sa thèse quand il cherche alors qu'il est le seul. Voilà,
c'est efficace,
c'est tout Belette. Ouais, c'est fabuleux pour ça.
Denis,
moi c'est avant le début du tournage, en fait. C'est pas vraiment une scène, c'est le moment où on se retrouve. On avait joué la pièce, comme disait Eric, on se disait ouais, ça ferait un super film, les gens se fendraient vraiment la gueule, il y a le Covid entre temps, etc. Et puis un beau jour Eric nous dit on va faire la pièce, on va faire le film. Et arrive le début du tournage et on est dehors dans le maquis avec Jean-François et je lui dis ça y est poteau, on fait le film. Et ça, c'est vraiment un moment qui m'a touché parce que c'est aussi une vraie histoire d'amitié, ce film. Et il y a une vraie histoire d'amitié entre nous. Je pense que les gens sentent ça aussi.
Ça transpire complètement, effectivement, à l'écran. Jean-François.
Mais vous voyez les intellos, ça répond pas à la question. Il a donné une scène qui n'existe pas dans le film.
Bon, alors je compte sur vous, Jean-François, pour rétablir tout ça.
Ça aurait pu être un énarque, hein, en fait, c'est ça. Hein.
Non, mais c'est vrai. Alors que, voilà, Achille est plus pragmatique. Une scène du film. Moi, quand j'ai vu le film, c'est vrai que celle qui m'a fait le plus rire, c'est la dernière, oui, et on ne peut pas le dire.
Voilà. Ah bah oui. Non, effectivement.
Oui, mais c'est celle qui. Voilà. C'est celle qui explose, qui va, je pense, exploser vraiment la salle.
Puis qui amène la petite émotion de fin de film aussi. Ah, c'est pas celle-là. Alors, c'est pas la dernière.
Voilà, c'est l'avant-dernière, effectivement, elle est plutôt émouvante, touchante. Mais la toute dernière, dont on peut pas parler parce que c'est une grosse surprise à la fin du film. Celle-là, c'est ma préférée aussi parce qu'on va jusqu'au bout du délire. Et les gens dans la salle, quand ils voient cette scène, ils rigolent tous. On les voit bouger dans le fauteuil comme ça. Et puis juste derrière, il y a le générique de fin. On termine sur ça. Moi, c'est ma préférée aussi. Mais malheureusement, on peut pas la dévoiler.
Non, c'est juste que voilà, vous comprendrez certainement en voyant dès le début, vous aurez toutes les réponses auxquelles peut-être que vous vous posez à la fin, complètement. Même donc si il faut rester tout le film comme ça.
Même si vous arrivez à vous endormir, je pense pas, hein, c'est pas possible, réveillez-vous à la dernière scène.
Bon, moi j'ai envie de savoir ce que ça a changé pour vous, entre le fait de jouer sur scène devant un public et après de la faire en film. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour vos personnages, dans votre façon de jouer? Ça a changé un petit peu quelque chose ou pas?
La façon de jouer, bon, je sais pas, mais moi, dans ma tête, c'est d'être allé au bout d'un vrai projet et d'une aventure. Et encore, peut-être que ça peut continuer. Mais en tout cas, c'était l'étape qu'on voulait au moins arriver à toucher, quoi, à finaliser. Et moi, donc, je me sens un peu soulagé d'être allé au moins jusque-là. Mais il y a quand même quelque chose à faire, je pense encore. C'est pas fini.
On pourrait très bien imaginer une suite, ouais, parce que c'est ouvert aussi, hein, comme fin. Jean-François.
Alors, on va pas parler d'un changement, justement. Ça permet de continuer continuer à se voir, à jouer, à présenter le film, donc à se revoir à chaque fois. Au contraire, moi, c'est une continuité que ça m'a donné.
C'est une vraie bande hein, qui se lie là devant nous. On sent avec ce film aussi, et je sens que l'aventure est loin d'être terminée entre vous quatre. Oui, Denis.
Je vais dire un truc simple pour que les trois autres...
Pour qu'ils comprennent.
Exactement. Je vais essayer de faire un truc simple. C'est ça, c'est la continuité de ces personnages qu'on a tant aimé pendant 2 ans et qui continuent, et j'espère qu'ils vont continuer.
Au restaurant, c'est pareil. Hein. Ils me copient. Dès que je prends quelque chose, ils pensent que c'est bon, ils prennent lui aussi. Il dit exactement la même chose. Quand il ne sait pas quoi dire, qu'il n'a pas préparé la question, il dit ça.
Comme les autres.
Moi, ce que ça a changé pour moi, d'abord, ça nous donne beaucoup plus de responsabilités parce que maintenant, on fait partie d'une vraie équipe.
D'un clan,
et que ce clan-là, il va falloir qu'on l'amène jusqu'au bout, donc il va falloir qu'on travaille parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, et c'est un sens des responsabilités que je n'avais jamais eu dans ma vie. C'est-à-dire que je faisais mon métier de DJ, c'était facile à faire. Là, c'est plus la même chose. C'est le début d'une nouvelle histoire, donc j'ai l'impression d'avoir 15 ans et c'est fabuleux. Je remercierai jamais assez Eric pour ça.
Bon Eric, les projets, puisque là j'ai l'impression que c'est pas fini entre vous quatre, donc il y a des choses qui se préparent pour le printemps, je crois, pour nous proposer un nouveau projet pour 2024 du coup.
Ouais, oui, ou fin 2023 pour la sortie de ce nouveau long métrage, ou début 2024, ça c'est plus compliqué à définir pour la sortie, mais le tournage c'est mois de mars, mois d'avril. C'est un film tiré d'une histoire vraie. Ça va s'appeler Inestimable au pluriel. Et donc, c'est l'histoire de trois potes qui découvrent, en allant à la pêche aux oursins, mais c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, ils découvrent le plus gros trésor romain jamais trouvé en Méditerranée.
Et c'est tourné où alors, a priori, tu sais déjà?
Là où ça s'est passé, en Corse. Voilà.
En Corse, voilà. Donc on quitte pas la Corse et c'est chouette. Voilà, comme ça vous allez pouvoir faire le plein de beaux paysages et aussi, bien sûr, faire le plein de rires. Mercredi au cinéma, t'as vu, j'ai placé le clan dès que je pouvais. C'est un vrai clan qu'on a avec nous aujourd'hui. Et le clan, ça sort mercredi au cinéma. Merci à tous les quatre d'être passés nous voir, en tout cas, pour nous parler de ce joli film qui va vous faire du bien en ce début d'année. Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
Merci.
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 Allez, tout de suite, bande annonce. On se refait un petit extrait.
Achille, c'est à toi. Tu joues ou tu restes en prison?
Ah, je reste en prison.
Vous préférez pas payer les 5 000 et sortir?
Mais ça va. Je fais 6 ans de cabane en vrai. Je peux faire 3 tours au Monopoly.
Oui?
Non? Tu es con ou quoi? C'est elle qui est con. Je croyais qu'on était venu faire des UV ou quoi?
Allez, la suite de Chute, on écoute la télé, c'est dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas, notre spécial 7e ciel et Constance Labbé débarque.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand tu doutes et que tu prends des cours, quand le chemin fait des courbes, ce que tu découvres, c'est avant toi.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, nos coups de cœur télé cette semaine avec Constance Labbé qui est notre invitée. Bonjour Constance.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de t'avoir Constance. T'es une fidèle de l'émission. On aura le plaisir de te retrouver jeudi évidemment dans l'ultime saison de Balthazar et lundi prochain dans Piste Noire, une nouvelle série inédite qu'on va découvrir. Alors on va commencer par Balthazar puisque c'est le plus proche de nous. Ultime saison pour Camille Coste. Ouais. Du coup, puisque Balthazar va tirer sa révérence et c'est en pleine cavale qu'on va retrouver Balthazar et son équipe pour cette saison 5 inédite jeudi.
Ouais, exactement. C'est la fin, mais c'était une belle aventure, j'aurais été très frustrée d'avoir qu'une saison à défendre. Mais là, deux, c'est chouette et puis vaut mieux finir en beauté plutôt que de se lasser et que les spectateurs se lassent. Donc on est heureux de pouvoir offrir une très belle dernière saison.
Alors c'est une dernière saison qui fera 6 épisodes, hein, je crois, hein, qui est pas très longue en plus. Donc on en a pour 3 semaines de diffusion avec un vrai final. On aura toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est vraiment un beau final sur mesure qu'on nous a préparé là.
Ah ouais, c'est un beau final. Ouais, c'est même surprenant, très surprenant. Vous allez, c'est un final à rebondissement.
Bon, mais écoute,
vraiment,
on a hâte de.
Des trucs que vous allez penser, vous allez avoir peur parce que vous allez avoir peur qu'il y a des choses et en fait non et en fait oui, en fait non. Vous verrez.
Bon, je le disais, on va prendre double dose de Constance Labbé, puisqu'on va te retrouver non seulement jeudi dans Balthazar, mais aussi le lundi, et dès lundi prochain, dans Piste Noire. C'est la série qui va prendre la suite de Vortex sur France 2 à 21h10. Alors, Piste Noire, on va se retrouver en plein dans les montagnes. C'est une vraie série hivernale qu'on va découvrir, où tu vas jouer le rôle d'Émilie Carras.
Émilie Carras, ouais. Maréchal de logis, chef Carras.
Qui va faire son retour, on va dire, dans des montagnes qu'elle connaît bien. Et ce retour n'est pas de son goût du tout, on va dire. Elle y est contrainte et forcée suite à un incendie qui s'est déclaré dans une caravane, dans un camp de saisonniers. Et elle va devoir se heurter à pas mal de choses, et notamment au Major Servoz, qu'on recevra d'ailleurs lundi prochain. Thibaut de Montalembert, c'est une belle aventure, dis-moi, et des paysages absolument magnifiques. Et une façon de tourner de Fred Grivois très particulière.
Ouais, c'est une série très originale et c'est une série dans laquelle on a pris beaucoup de risques à tous les niveaux. Fred, il a effectivement une manière de filmer très particulière avec des plans très originaux. Il a fait de la montagne un vrai personnage, donc on joue avec la montagne et c'est magnifique qu'elle soit autant traitée comme presque une personne.
Ah, c'est un personnage, c'est un personnage à part entière.
Ouais. Ouais, et puis moi, c'était vraiment un partenaire de jeu. Hein, parce que 3 mois, je peux vous dire qu'elle m'en a fait des vertes et des pas mûres. Hein. Elle m'a donné froid, elle m'a ébloui, j'ai joué avec elle quoi pendant 3 mois. C'était une donnée. Donc c'est chouette qu'on la retrouve autant. Et puis c'était merveilleux de jouer avec Thibaut de Montalembert parce que déjà j'étais fan avant de jouer avec lui. J'étais fan de ce comédien. Et puis maintenant je suis doublement fan de ce comédien, fan de cet humain parce qu'on s'est super bien entendu. Et que c'est un merveilleux partenaire de jeu et partenaire aussi d'amitié.
Alors, avec sa famille, en tout cas, Émilie Carras, le rapport est très, très compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Puisqu'évidemment, toute sa famille vit au Cléris, dans cette station fictive de ces montagnes. Elle ne parle plus à personne, et quand elle va faire son retour, évidemment, sa famille va être mêlée à tout ce qui se passe, et ça va être très compliqué à vivre pour elle.
Hein. Ouais, bah, c'est une femme très, très blessée, qui a été rejetée par sa famille, du fait de son orientation sexuelle, et qui a dû abandonner sa carrière de skieuse qui a dû tout abandonner, en fait, ses amis, sa famille et son lieu d'origine et qui allait se reconstruire ailleurs. Elle a réussi à se reconstruire ailleurs, elle a réussi en faisant l'armée, en vraiment en construisant cette carapace et professionnelle et personnelle. Elle a créé sa vie, sa famille ailleurs et puis tout d'un coup, elle doit se reconfronter à tout son passé. Donc, c'est hyper difficile et en même temps, c'est génial parce que grâce à ses responsabilités, son métier, son enfant, qui lui amène beaucoup de force, et ben, elle va avoir le courage de justement se confronter à ses parents, à son passé, à ses anciens amis, à tout ce qu'elle a fui et tout ce qu'il a rejeté. Et peut-être trouver autre chose et peut-être se libérer de certains poids. Donc ouais. Finalement, c'est aussi une réparation.
Elle est brute de décoffrage, hein, Émilie, hein.
Ah bah ouais.
Au départ, c'est pas simple avec Servoz, hein.
Non, elle a fait l'armée, elle s'est endurcie, hein. Donc, elle envoie tout péter, hein. Faut pas l'embêter.
Moi, il y a une scène qui m'a marqué, Constance. C'est la scène de retrouvailles avec ton père qui est joué par Christian Roth. Une scène que vous avez jouée tous les deux d'une froideur qui était saisissante, qui était incroyable dans le commissariat. Enfin, la gendarmerie plutôt. Et c'est vrai que cette scène a dû être parfois difficile à jouer. Comment on se met dans cette peau-là?
Je suis contente que tu me parles de cette scène parce que moi, c'est une scène que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler aussi. Comment on se met dans cette peau-là, avec le travail, avec une préparation, une concentration avant de jouer cette scène. Et puis j'étais aussi entourée de merveilleux partenaires. Christian, il était super. Et puis j'avais Thibaut à côté de moi qui m'a beaucoup aidée. Et puis Fred m'a permis d'avoir un espace de liberté dans cette scène parce qu'on n'avait pas forcément prévu que j'ai ma matraque, on n'avait pas forcément prévu que je m'approche. Il m'a demandé de le sentir, quoi, de la jouer comme je sentais. Et c'était d'avoir cette confrontation physique, ouais. Et de me mettre entre mon frère, qui est joué par ce merveilleux comédien qui s'appelle Jules Sago, de me mettre entre ce frère et mon père et de défendre en fait mon frère de ce père dangereux et violent et mauvais, et d'avoir la loi avec moi, parce que je suis à ce moment-là, je suis gendarme.
Et oui, représentant de la loi.
De la loi, donc j'ai ça en fait, qui tout d'un coup n'a plus rien à voir avec mes 16 ans, mes 17 ans. Je peux lui interdire légalement de m'approcher. Et ça change tout. Ouais, c'était très agréable à jouer. C'était dur, mais c'était agréable. C'est super.
Constance, est-ce que les 6 épisodes, c'est bouclé? Ou est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir une suite? Enfin, plutôt, voilà. Est-ce que c'est une mini-série? Ou est-ce que ça peut être développé sur plusieurs saisons?
Eh ben, pour l'instant, c'est une mini-série. Après, comme tout, les téléspectateurs adorent et répondent, on ne sait jamais. Moi, je ne sais pas, en tout cas, mais on peut espérer.
Toi, t'aimerais?
On peut espérer. Ah ben, moi, rejouer avec Thibaut, évidemment. Évidemment.
Bon.
Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Peut-être au soleil, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça pourrait être une piste blanche.
Piste blanche, quoi. Piste bleue, quoi. Tu vois, sur la mer.
Exactement. Piste bleue.
Championne de wakeboard. Moi, je veux bien.
C'est clair. Conditions de tournage. Ouais, c'est parce que les courses poursuites dans la neige, franchement, t'as dû en baver un peu, quand même, hein.
Ouais, un peu. Là, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir chaud.
Bon. Surtout que quand t'as tourné, si je me souviens bien, tu avais été blessé au pied quelques mois auparavant.
Exactement. Bravo. Bonne mémoire. J'ai été blessé au pied et, je me suis cassé les orteils et donc j'ai repris ce tournage avec beaucoup d'appréhension parce qu'en plus il y avait pas mal de cascades.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais la production et la réalisation ont fait que tout le monde était aux petits soins et que donc j'ai pu me remettre de ma blessure assez vite.
Bon, on te retrouve jeudi dans Balthazar, saison 5. On te retrouve lundi prochain dans cette toute nouvelle série Piste Noire, aux côtés de Thibaut de Montalembert. On va s'écouter un petit extrait en avant-première. Et on t'embrasse très fort, Constance. On te dit à très, très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, Alain.
À très vite.
À très vite.
Bonsoir, monsieur Jourdan.
À Fauvel. Allez vous servir un verre, mon vieux.
Cléry 3000.
Oui. Vous appelez.
L'identité du type, c'est Corto Fioraventi.
C'est un gars du coin. Les tics ont trouvé quelque chose d'intéressant.
100 000, 150 000 euros.
Il bossait dans un bar, le tremplin.
Il dit les quoi, Corto?
Les mecs, ils passent des kilos d'herbe sous vos yeux depuis 3 ans et vous avez jamais rien fait.
Il a été passé à tabac par un ou plusieurs individus.
Ça pourrait être un avertissement.
Baptiste?
Si tu sais que je suis là, tu sais aussi pourquoi.
Ben, je savais pas que Baptiste Montfort était votre frère.
Il y a le portable de Corto qui borne près du col de la Combe. C'est là.
Et t'es pas mort, toi?
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la série 7ème ciel qui débarque jeudi sur OCS. Nouvelle création OCS que vous allez pouvoir découvrir en 10 épisodes. Les deux premiers sont diffusés jeudi, mais vous pourrez déjà découvrir sur la plateforme OCS la totalité de cette série qu'on a pu découvrir au Festival de la Fiction à La Rochelle il y a maintenant quelques mois. Et on a justement la scénariste réalisatrice qui est avec nous, Alice Vial. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et on a Justine Lacroix qui interprète Elsa, qui est avec nous également. Bonjour, Justine.
Bonjour.
On va être rejoint par Féodor Atkin également dans quelques instants. Et puis celle qui interprète brillamment Rose aussi, qui sera avec nous, Sylvie Granotier. Franchement, cette série, quand on l'a vue, nous, on est tombé complètement sous le charme. Il est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir les personnes d'un certain âge à l'honneur, comme ça, dans une série. Comment est venue l'idée, Alice?
La créatrice Clémence Azincourt, elle a passé beaucoup de temps dans la résidence de ses grands-parents et elle a observé plein de petites histoires et notamment elle a constaté effectivement que l'amour et la sexualité étaient totalement tabous mais faisaient évidemment partie, il y en a dans toutes les résidences. Et du coup elle a eu envie de parler de vieillesse mais par ce biais-là qui est rarement abordé et qui est assez lumineux aussi. C'est ça qui l'intéressait, c'est que ça donne Voilà, souvent quand on parle de vieillesse, c'est un peu ça peut être un peu lourd ou un peu grave. Et c'était super aussi de pouvoir se projeter dans quelque chose de positif. Voilà.
Oui, puis cette série montre aussi que même quand la flamme est éteinte, à un moment donné, quand on attend clairement dans un EHPAD ou les établissements comme cela, on attend tranquillement la fin. Enfin, c'est triste à dire, mais et là, et ben on sent que il faut des fois pas grand-chose pour que la flamme se rallume entre deux personnes. Et j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir suivre cette histoire de cette façon-là, Alice.
Oui, et c'est très juste. Enfin, nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que tant qu'on est en vie, rien n'est joué. Enfin, je pense au personnage de Jacques qui, lui, supporte pas l'idée de vieillir et se sent seul et il n'a pas du tout envie de traverser ça. Et face à lui, il y a cette femme, Rose, libre, qui, elle, a décidé de sublimer tout ce qu'elle vit dans la résidence et de vivre chaque jour à fond sans se dire, j'attends la fin, quoi. Enfin, et au contraire, il y a encore plein de choses à vivre et on n'a plus rien à perdre quelque part. Donc, c'est la vraie liberté.
Il y a un petit clin d'œil à Titanic.
Oui! Oui, un peu caché parce qu'évidemment ça n'a rien à voir, il faut pas s'attendre, on se compare pas à
c'est Jacques, c'est pas Jack.
Voilà, c'est Jacques et c'est Rose dans les Hauts-de-France, donc rien à voir. Mais en fait, ce qu'on aimait dans Titanic, c'est qu'en tout cas, il y en a un des deux qui a une vraie pulsion de vie et qui vient libérer l'autre. Et là, on l'a un peu inversé puisque c'est Rose qui vient libérer Jacques et pas l'inverse. C'était vraiment un micro clin d'œil à ce film.
On va y revenir effectivement sur l'histoire de départ, comment ça commence pour donner envie aux gens effectivement de vraiment de regarder cette série. On va, Justine, présenter un peu le personnage d'Elsa. Qui est-elle pour toi ?
C'est vraiment un personnage touchant.
Pour situer, elle débarque pour un stage. Elle est un peu dégoûtée de tout ce qui se passe, de tout ce qu'elle voit. Et puis en fait, on s'attache mais excessivement vite à ce personnage.
Ben, d'autant plus que de base, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait là. En fait, elle de base ne voulait pas faire ça. Enfin, ça reflète un peu beaucoup les personnes dans la vie de tous les jours. À l'âge là, on sait pas réellement. À 20 ans, beaucoup de gens se disent ouais, il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie, etc. Mais à l'âge là, en vrai, on sait pas réellement. Et elle est un peu dans cette phase où elle est perdue et on lui a dit « faut absolument que tu fasses ça ». Et du coup, elle y est allée un peu à reculons. Mais au final, on va beaucoup s'attacher à ce personnage parce qu'elle va découvrir plein de choses. Et elle va finir par aimer ce qu'elle fait et les relations. Voilà. Fin...
Ça va devenir une vraie alliée hein, pour Jacques et Rose aussi. Hein. Ça, on va le découvrir tout au long et effectivement de cette première saison qui, j'espère, en amènera d'autres d'ailleurs. Alors, ça commence comment ? Plante le décor un peu, Alice.
Ça commence avec Jacques, qui est un peu encombrant. Il habite chez sa fille Isabelle. Incarné par la grande Irène Jacob. Et Jean-Édouard Bodia qui joue Gilles, qui est donc le mari d'Isabelle. Et personne n'est à l'aise avec personne ne serait d'ailleurs à l'aise avec cette situation. Voilà, d'avoir son père qui vit chez soi. Il se sent de trop. Du coup, il est bougon. Le gendre en a assez. Enfin, voilà, c'est très tendu dans la maison. Au point que Gilles décide de partir. Et Isabelle, c'est le petit truc. Voilà, de savoir que son mari est parti, ça la pousse à mettre son père en résidence. C'est vraiment le point de départ. Et évidemment, Jacques arrive. Pour lui, c'est l'enfer, quoi. Il est hors de question de rester dans cet endroit. Mais c'est sans compter sa rencontre avec Rose Chardon, qui est là depuis quelques années et qui va tout changer.
Et on va découvrir qu'effectivement, c'est au moment où le personnage d'Irène va avoir des remords et va vouloir effectivement reprendre son père, que lui va vouloir rester sur place. Et c'est là que toute l'aventure amoureuse va commencer autour de ces deux personnages. On va en parler avec Féodore et Sylvie, évidemment, dans quelques instants. C'est une histoire hyper touchante, c'est ce qu'on disait. C'est vous, Alice, qui avez réalisé tous ces épisodes. Est-ce qu'il y a eu des moments de grâce quand on est réalisatrice, qu'on est derrière la caméra, qu'il se passe des choses comme ça devant? Il y a dû y avoir des moments incroyables.
Franchement, tout le temps. Là, on a tourné, il y a quelques mois, et j'en reviens pas que ça a été aussi merveilleux, mais j'avais une troupe d'acteurs tellement impliqués. Et puis en plus qu'ils se sont très bien entendus entre eux, il y a vraiment eu un effet troupe, un effet colonie. Ça prend pas toujours sur les tournages, hein, c'est pas toujours le cas. Et là vraiment, pour de vrai, il s'est passé un truc. Et le fait aussi de tourner dans ce grand hôtel, un peu en huis clos, ça a aidé forcément. Il y avait vraiment le côté colonie de vacances.
Le bord de mer aussi, très bien d'avoir choisi justement un bord de mer dans le nord, avec ces grandes plages et grandes étendues de liberté.
C'est complètement ça. Nous, on s'est dit, il faut que quand on, il peut y avoir un côté oppressant dans la résidence. On est toujours un peu dans les mêmes décors et les personnages n'en sortent pas. Et on s'est dit, mais il faut, quand on sort, il faut que ce soit une vraie respiration et on a envie d'une nature sauvage. Et dans le nord, il y a effectivement ces grandes plages interminables. On voit très loin et ça fait du bien et c'est des vrais échappées pour eux aussi. Et il y avait, on le voit plus tard dans la série, plein de choses chouettes à jouer dans ces dunes, sur ces plages. Il y a des courses-poursuites. Enfin, bon, j'en dis pas trop, mais, j'en dis pas plus, mais oui, c'était un choix tout de suite de tourner dans un endroit avec une nature aussi forte et aussi présente, quoi.
Il y a une scène pour toi, Justine, qui a été particulière, qui a été drôle à un moment, un souvenir à nous raconter?
Bah, une des scènes un peu compliquées, mais que j'ai beaucoup aimée parce que je l'avais jamais vraiment, mais vraiment jamais faite. Et je ne pensais pas la faire un jour. C'est une scène, oui, où je dois draguer un adulte. Et je ne l'ai jamais fait. Ça a été plutôt drôle, puisque au début, je pensais que ça allait être vraiment, enfin, genre, j'allais être vraiment mal et tout. Mais l'équipe était vraiment super. On a très vite rigolé, on a très vite fait des blagues. Et du coup, bah, l'ambiance, elle était géniale. Et ouais, des barres de rire.
Elsa, elle est un peu rentre dedans aussi. Elle est cash. C'est une jeune fille qui est cash.
Bah ouais. Bah du coup, c'est pour ça que ça n'a pas. Enfin. Et je veux pas dire que ça n'a pas été compliqué de tourner ce personnage, parce que chaque personnage a sa complexité, mais ça a reflété pas mal ma vie un peu, parce que dans la vie, je suis quand même rentre dedans et cache, donc...
Ça te ressemble pas mal.
Ça va, ouais, c'était pas trop loin.
Bon, j'imagine que l'espoir, c'est d'en faire d'autres après, de continuer l'aventure au-delà de ces 10 épisodes. Je suis sûr qu'ils ont encore plein de choses à raconter.
Je pense aussi, c'est un peu tôt pour en parler, voilà, mais ce serait super.
Bon, il y a un personnage aussi central un peu dans cette histoire, dont on va parler avec Féodor et Sylvie dans un instant, c'est Couscous. Faut pas l'oublier.
Mais il était formidable, Couscous. Moi, on m'avait dit, ne tourne pas avec des enfants, ne tourne pas avec des animaux, et surtout pas des chiens. Mais franchement, Couscous...
Mais je l'ai pas vu, moi je l'ai
pas
vu.
Ah, t'as raté Couscous. Hein. Non, mais il est...
T'as vu Couscous en t-shirt? On parle d'un Carlin, pour ceux qui nous écoutent.
Et en plus, il a une tête vraiment, il est trop, enfin voilà, il a une bouille trop drôle quoi.
Mais donc, quand j'en ai parlé, on m'a vendu du rêve. Et de ce que j'ai vu, c'est du rêve.
Il a croisé. Il était très bien dressé, non? Parce qu'il y a des gens derrière quand même qui, c'est un métier. Et il était super bien dressé, enfin voilà.
Bon, on va continuer à parler de 7e ciel, la série débarque jeudi sur OCS. Elle sera déjà d'ailleurs en intégralité sur la plateforme d'OCS. Alors n'hésitez pas à aller découvrir en tout cas cette très très belle série qui arrive. On va écouter un extrait, on revient juste après avec Sylvie et Féodor qui vont nous rejoindre. On va parler de Jacques et Rose et de leur personnage. Merci beaucoup Alice et merci beaucoup Justine.
Merci beaucoup, vraiment.
Merci.
Je les ai vus en train d'avoir un rapport sexuel. Voilà.
Et je connais ma mère, elle aurait jamais fait ça. Est-ce qu'on peut mourir à force de trop faire l'amour?
Putain, mais tout me canne ici.
7e ciel, c'est donc jeudi sur OCS et également en intégralité sur OCS à la demande, bien évidemment. On continue à en parler. Vous allez être très très vite séduit par ce couple que l'on va retrouver dans cette série incarnée par Sylvie Granotier qui est avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Qui nous a rejoint, qui incarne Rose. Et on a Féodor Atkin qui est avec nous également. Bonjour.
Bonjour, bonjour Alain.
Qui joue le rôle de Jacques. Alors tous les deux, on a été, ce que je disais avec Alice et Justine à l'instant, on a été bluffés par cette histoire qui permet aussi de montrer que même quand la flamme est éteinte, il suffit de pas grand chose pour la rallumer. C'est une histoire d'amour comme on aimerait en voir beaucoup plus à l'écran. C'est ça qui vous a séduit en premier, tous les deux, qui vous a fait accepter ces rôles, en tout cas, Sylvie?
C'est le genre de flamme comme on aimerait en vivre plus souvent, effectivement. Moi, c'est franchement ce qui m'a séduit d'emblée, c'est l'écriture, c'est-à-dire c'est un scénario dans son ensemble. Un personnage n'existe pas tout seul s'il n'a pas un contexte qui lui est favorable. Et là, le contexte était éminemment favorable. Après, c'est drôle parce que je ne l'ai pas vécu. Forcément, on va en parler comme ça. C'est une histoire d'amour dans un EHPAD entre deux personnes âgées. Je ne l'ai absolument pas lu comme ça. Je l'ai lu comme la rencontre improbable entre deux personnes qui n'ont à peu près rien de commun. Parce qu'on découvre progressivement d'où ils viennent, quelle est leur histoire, leur caractère. Ils sont franchement pas faits l'un pour l'autre sur papier. Et comment une rencontre peut progressivement découvrir des obstacles qui font que cette rencontre ne devrait pas avoir lieu et que les obstacles, non, c'est pas qu'ils tombent au fur et à mesure, c'est qu'on les fait tomber. Et il y a une énergie comme ça, du sentiment partagé, du désir aussi. Et pour moi, c'est à l'image de la vie, en fait.
C'est vrai. Féodor? Qu'est-ce qui vous a plu en premier?
Je vais chanter. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Enfin, je veux dire, pour paraphraser Jacques Brel, c'est de ça qu'il s'agit, bien évidemment. Et je rejoins Sylvie. Je vous avoue franchement que c'est le personnage de Jacques m'est apparu après les autres. C'est-à-dire que c'est le contexte général, la qualité de l'écriture de chacun des personnages secondaires qui entourent ce couple, ainsi que le personnage de Sylvie, qui m'ont absolument fasciné. et entraîné dans cette aventure. Parce que je considère que là où on a eu la chance d'avoir en face de nous des gens qui avaient développé un scénario dans lequel un ensemble de questions étaient posées sans que la thématique soit évacuée, parce qu'elle existe, c'est celle du désir, c'est celle de la vie après la vie, et non pas de la vie après la mort, de la vie après la vie, après tout ce qui a été vécu, il y a encore du vécu, il y a encore quelque chose qui s'anime, tout simplement parce que nous sommes porteurs de notre enfance, de notre jeunesse, de notre adolescence, de notre vie d'adulte, et encore plus, et tout ça concourt à créer des personnages qui, dans le contexte général de la société dans laquelle on se trouve, devraient être momifiés, devraient en fait disparaître, ne pas être là, pour ne pas gêner les autres, pour ne pas gêner les générations qui suivent en disant « bon, mais ça suffit, vous avez suffisamment fait de choses, reposez-vous dans une maison de repos et laissez-nous vivre ». Or, dans ce scénario, et ce que nous pensons, parce que je pense qu'on partage ça avec Sylvie, l'interpénétration générationnelle est quelque chose de formidable que nous avons découvert, parce qu'on le savait, parce que nous, on développe dans notre vie personnelle des relations avec plusieurs générations, et ça, on a la chance de vivre ça. Ça n'est pas le cas pour tout le monde, mais en même temps, je pense que c'est la direction vers laquelle nous devrions tous aller en essayant de comprendre les problématiques de chacun et de partager d'un côté les expériences et de l'autre côté l'enthousiasme.
C'est une ode à la vie, cette série. Et puis, il faut dire que Jacques, il a deux histoires d'amour, quand même. Il a celle avec Rose, effectivement, mais il a celle avec Couscous, quand même.
Celle avec Couscous, j'en profite pour embrasser Kido et Indeed, qui sont
mes deux
amours parallèles. Mais non, c'est vrai, mais disons que ce côté-là dénote quand même quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Jacques a un rapport avec son gendre qui est absolument détestable, avec sa fille qui est extrêmement lointain et quasi glacial, et en revanche une émotion incroyable avec ce chien. Mais je veux dire, ça n'est pas...
Quand il lui dit au revoir, mais c'est un truc de dingue quand elle le laisse dans sa chambre et puis que le personnage Jacques dit au revoir à son chien, même pas un mot pour sa fille, mais qui dit au revoir à son chien. C'est violent, et à la fois on sent bien cette absurdité aujourd'hui où on refuse effectivement que des personnes âgées puissent avoir un compagnon comme ça avec eux dans un EHPAD, et à côté de ça on fait venir des chiens pour les occuper. Et ça, c'est l'absurdité qui est aussi démontrée, hein.
Et il y a surtout le fait, ça dénote bien évidemment un monde de solitude. La solitude est palliée par, chez un certain nombre de personnes âgées, par l'acquisition ou le partage de la vie d'un animal. Le nombre de personnes âgées qui se baladent avec un petit chien et qui ne disent bonjour à personne dans la rue, c'est pathétique. Alors que si on leur enlève leur compagnon, dépérissent totalement, sont capables de choses monstrueuses. Et c'est terrifiant parce que, en même temps, eux, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à montrer, ils ont quelque chose à partager, mais ils ne le savent pas. Alors ils partagent avec cet animal indéfectible qui, lui, ne répondra de toute façon qu'avec une admiration sans mot.
L'amour inconditionnel de son maître, effectivement.
Dor aime beaucoup ses chiens, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de très bons rapports avec l'humain. Mais je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est une des choses aussi que raconte la série, c'est le rapport aux autres, parce que... Même ce ronchon de Jacques, qui est tellement en colère d'être vieux, quoi, ça le rend fou. L'idée d'être vieux le rend fou, et donc misanthrope, les gens ne l'intéressent pas, puisque de toute façon, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et
c'est les autres sont vieux, quoi. C'est les autres.
Mais lui, en même temps, on lui dit qu'il est vieux, donc il est seul aussi dans cette nomenclature, on va dire. Mais du coup, il y a la rencontre, certes, amoureuse, c'est vraiment la chaîne principale. Mais en fait, une des choses qui va se passer aussi, et que Rose peut-être lui apprend, c'est à regarder les autres. Et il va finir par y avoir des liens d'amitié, de connivence, de complicité. On monte des coups quand même. On va monter des coups par la solidarité d'être ensemble. Et c'est quelque chose que finalement, il découvre dans un EHPAD, alors qu'a priori, on se dit, c'est plutôt dans la vie que ça arrive, ces choses-là.
Enfin, moi, je vous conseille vraiment de découvrir cette très très belle série. Ça s'appelle 7e CL. C'est jeudi sur OCS. Vous pouvez déjà aussi découvrir la série en intégralité sur OCS à la demande. C'est aussi la particularité parce que vous aurez très vite envie de découvrir la suite. Moi, je vous le dis. Puis je vous espère une saison 2, en tout cas, et qu'on continuera. Je suis sûr que Jacques et Rose n'ont pas fini et ont plein de choses à dire encore.
Ça, c'est sûr. Non, mais il y a le rebondissement final, je dois dire. Je ne divulgacherai rien, mais on se dit, et maintenant ?
Et maintenant ? Alors, saison 2. Bon, alors, je dévoile déjà la saison 2.
Les idées, tiens.
Je n'ai rien à dire.
Merci à tous les deux d'avoir été là. En tout cas, merci Sylvie, merci Féodore. Et on découvre 7e CL, c'est dès jeudi sur OCS, ces deux premiers épisodes.
Merci pour votre enthousiasme.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et cette semaine, on continue à parler de Toulouse-Lautrec avec Stéphane De Groot qui nous a rejoint pour en parler. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Tu incarnes Gilles dans la série Toulouse-Lautrec, une série qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se voit contrainte et forcée d'intégrer un lycée où il y a non seulement des personnes valides mais également des personnes en situation de handicap. Et si au début ça va être très compliqué pour elle, eh bien on va y voir au fur et à mesure beaucoup d'affinités qui vont se créer entre élèves. C'est une magnifique histoire qu'on a évidemment mis en place la semaine dernière avec la créatrice et avec Shin Thibault, l'héroïne. Mais qu'est-ce qui t'a attiré toi en premier justement dans cette aventure Toulouse-Lautrec?
Mais déjà la personnalité de Fanny, créatrice de la série, la productrice, réalisatrice aussi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de télé parce que j'avais des projets qui me tombaient un peu des mains, pour dire les choses honnêtement.
Il y a eu beaucoup de cinéma et de théâtre en plus.
Oui, il y a eu beaucoup de cinéma et de théâtre, mais j'ai rien contre la télé, si ce n'est que j'y trouvais pas mon compte. Et là, j'étais tout de suite cueilli par l'écriture, par cet univers hors norme. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai appris que Valérie Kersinti en serait aussi, donc ça me rassurait sur le profil des adultes, parce que pour porter ça à l'écran, un sujet aussi délicat, il faut des gens qui en voient en termes de jeu. Donc voilà, et puis moi, un rôle de proviseur, ça me parlait pas vraiment, parce que moi, l'école, c'est très loin de moi. Je ne sais pas ce que c'est que vraiment un proviseur. Donc j'ai improvisé le rôle du proviseur au contact de ces enfants. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est de pouvoir m'immerger, de me projeter, de cohabiter dans un univers qu'on connaît pas très très bien, qui est celui du handicap lourd, en plus. Et ben, très vite, dès les premières heures, en fait, j'ai été cueilli par la force de ces enfants. Cette force incroyable. Et très vite, on ne voit plus le handicap, on les voit eux. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a plus de forme, on est sur le fond. Chaque jour qui passait me confortait dans ce choix. Ce personnage, en fait, il s'est composé au fil du temps. Je voulais pas qu'il soit un personnage improviseur comme on en voit premier degré, comme on en voit a priori tout le temps. Et au fil du temps, il devient de plus en plus décalé, il est de plus en plus de second degré, il se moque des autres, il se moque de lui. Enfin, quand je dis qu'il se moque des autres, c'est de l'ironie. C'est pas du cynisme. Il y avait cette possibilité pour ce personnage de faire ça. Surtout sous le regard de Stéphanie Murat qui a réalisé ces épisodes-là, qui dans un certain cadre donne une certaine liberté de jeu. Voilà. Donc j'ai aimé cette liberté de jeu tout en restant cohérent par rapport à mon personnage.
Entre les histoires, les personnages, c'est une série qui est hyper lumineuse. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en la regardant. Gilles, comment tu le définirais, toi, au niveau caractère ? Gilles vu par Stéphane, tiens.
Mais déjà, quand on a quelqu'un directeur d'école dans une école comme celle-là, forcément c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière, forcément. Je pense même que dans la réalité, les profs sont en demande d'aller dans un établissement comme celui-là. Parce que c'est une leçon de vie, c'est une claque qu'on prend. On leur apprend autant qu'ils nous apprennent. Donc il y a un échange unique. Donc je vois ce proviseur comme quelqu'un effectivement de très sensible, de quelqu'un aussi qui a envie de considérer ses enfants différents, de ne pas s'attarder à leur différence. C'est de les traiter comme n'importe qui, de pouvoir se moquer d'eux, de les brusquer. Et je pense qu'au fond, c'est ce qu'ils attendent. C'est qu'on les considère comme n'importe qui. C'est qu'on peut se moquer d'eux, comme on se moque de d'autres personnes. Voilà. C'est eux qui me regardent, c'est eux qui m'aident à le composer. C'est Valérie qui m'aide à composer ce personnage.
Tous ces jeunes gens que tu as rencontrés, avec lesquels tu as passé pendant 3 mois de tournage, ça laisse des traces automatiquement, ils sont hyper attachants. Déjà nous en tant que spectateurs, mais on imagine toi les avoir vécu en vrai et pendant 3 mois avoir vécu avec eux comme ça sur ce tournage. Ça a dû être difficile au bout de 3 mois de les quitter.
Oui, mais je les ai pas quittés là.
Peut-être mieux se retrouver pour une saison 2, on sait pas.
Alors j'espère, ça serait cohérent d'ailleurs. Et ils ont tous leur spécificité. Il y en a un qui me touche en particulier, c'est Hippolyte, qui est extraordinaire d'abord d'intelligence, mais on le sait pas ça, puisqu'il s'exprime pas. Ce n'est que quand on passe du temps avec lui, que quand il écrit sur son clavier quelque chose et que la voix résonne, c'est qu'on se dit mais c'est incroyable ce qu'il a à dire, la manière dont il le dit. Et puis il est, on a envie de le prendre dans les bras, ce type. Donc je pense à lui, mais Ness, elle est extraordinaire aussi dans le film. Elle est tellement juste, elle est tellement forte. Donc c'est bouleversant, c'est fantastique, cette série est fantastique. Ouais, c'est presque une série d'intérêt public.
Elle laissera des traces, en tout cas j'en suis sûr pour vous tous. Et on espère évidemment voir une suite bientôt. Stéphane, des projets pour 2023? Il y a des choses qui se dessinent, des films qui vont sortir, du théâtre?
Alors il y a une pièce de théâtre que je vais jouer au Théâtre du Rond-Point, une pièce de Gilles Gaston-Dreyfus. Et puis un documentaire aussi que j'ai vendu à Canal+, sur ma vie d'avant et sur ma vie d'aujourd'hui, mon époque de course automobile et de comédien, où je me suis mis en tête de défier Esteban Ocon sur un circuit dans une Formule 1 et de réaliser un chrono digne. Et donc en fait on me suit dans mes entraînements, on me suit dans toutes les phases préparatoires jusqu'à ce que je roule dans une F1 sur le circuit de Monza. Ça va faire l'objet d'un documentaire de 52 minutes sur Canal+, qui va s'appeler « De la piste aux étoiles ».
On va suivre ça.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous, tous les autres avec la suite. C'est cette semaine sur TF1. On ne le rate pas bien évidemment. À très bientôt.
Merci, à très bientôt. Oui.
Tu sais ce que tu fais à Toulouse-Lautrec? Tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement.
C'est comment? Raconte!
C'est juste l'enfer, quoi.
C'est quoi cette histoire de référent?
Bah, vous allez être le référent d'un élève handicapé de votre classe. Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner.
Inédit, lycée Toulouse-Lautrec, votre nouvelle série, prochainement sur TF1.
Vous savez comment on m'appelle ici?
Pas du tout.
Le frigo.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Les Rascals de Jimmy Laporal-Trésor qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jimmy, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de me recevoir.
En ce début d'année 2023, premier film, Jimmy, ça doit faire un petit quelque chose de le voir appartenir au public maintenant d'ici quelques jours.
Bah comme je dis souvent, le film maintenant appartient au public, donc c'est eux qui vont faire vivre le film, le faire un succès ou pas. Donc j'espère que ça va plaire au public et qu'ils auront envie d'en parler et de retourner voir le film. Donc j'ai très hâte de voir comment le film va être accueilli.
Alors c'est une plongée au cœur des années 80, voire même en 1984 pour être précis. C'est quoi Les Rascals? Expliquez-nous.
Alors Les Rascals, c'est une histoire qui raconte la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, de manière un petit peu brutale, je dirais au forceps. C'est le rêve américain qui rencontre le cauchemar français. Ça parle d'une bande de copains qui vivent leurs derniers instants de joie.
Insouciance, un peu.
Insouciance, où ils vont sur Paris pour draguer, faire la fête. Ça raconte aussi l'histoire d'une jeune fille qui monte à Paris pour faire ses études. Cette jeune fille et les Rascals vont croiser sur leur chemin là une nouvelle bande qui s'appelle les Bonheads, qui sont racistes, radicalisés, violents. Et ça va changer leur destin.
Le film montre aussi très bien la montée du nazisme en France dans les années 80. C'est ça qui est aussi assez dramatique. C'est ce que vous avez voulu montrer, dénoncer peut-être aussi pour que les jeunes générations puissent aussi être informées de ça. Ça fait partie de l'histoire finalement.
Oui, alors moi le film, alors je déteste les films qui font la morale. donc en fait moi c'est plus une réflexion sur la violence. Alors c'est vrai qu'à l'époque ce qui représentait la violence absolue c'était les skinheads, c'était un peu le croque-mitaine du mythe urbain. Et donc du coup c'est vrai que de travailler sur cette figure, forcément ça nous fait parler d'extrême droite, ça nous fait parler du racisme. Et ce qui m'intéressait c'était vraiment de cette réflexion autour de la violence, de voir comment la violence transforme les gens, comment le fait d'être témoin d'un acte violent, d'être témoin d'une injustice peut nous faire basculer nous-mêmes dans la violence, et comment cette violence finalement est une impasse quand c'est une réponse.
Il y a des scènes très dures hein, dans le film. Vous verrez, qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet là pour le coup, Jimmy?
Alors moi, au départ, avec Sébastien et Vira, qui sont mes co-scénaristes, on est né fin années 70. Et quand on était gamin, les histoires de bandes, c'était vraiment des histoires qu'on se racontait dans la cour de récréation. Et il y avait, pour nous, on voulait parler des années 80, on voulait parler d'une société qui n'existe plus, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne pense qu'en fait cette époque n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu de skinhead, qu'il n'y a pas eu de bande. Et donc du coup on avait envie de parler un petit peu de notre Madeleine quelque part, de ce Paris qui n'existe plus, et de poser un regard aussi sur cette société qui en plus aujourd'hui se bipolarise beaucoup et qui est de plus en plus violente, de plus en plus intolérante, et de montrer en tout cas si on est tenté par une société où on serait justice soi-même, de montrer la bêtise de cette vision de la société, parce que c'est ce que montre Ascal, c'est que la violence pour la violence, ça amène à un cauchemar sociétal. Et donc voilà, moi c'est pas ce que je veux pour la société, donc c'était une façon d'exorciser cette peur ultime de ce que pourrait être la société d'aujourd'hui si on laissait libre cours à nos bas instincts.
Jimmy, ça fait très western par moment. C'est vrai, hein, très influencé par justement tout ce qui est western américain. On a un peu toujours les musiques de West Side Story ou d'autres qui pourraient résonner à certaines scènes.
Ah mais carrément, une des premières envies, c'était de faire un film un peu fordien, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le format Cinémascope. Ouais, il y a un côté très western. Il y a un hommage au grand cinéma Technicolor, Cinémascope des années 50-60. Parce que moi, c'est le cinéma que j'ai découvert quand j'étais gamin grâce à la dernière séance des Jim Mitchell.
On sent bien l'influence, ouais.
Et donc du coup, j'avais envie de revenir à ce style de cinéma. Un peu bigger than life, un peu épique, et pas d'être dans un film du réel, quoi. Même si on raconte quelque chose qui est très ancré dans une réalité documentée. Mais en tout cas, j'avais cette envie de cinéma pur. Voilà.
Alors, il y a des jeunes acteurs très en vue en ce moment, comme Victor Meutley ou encore Théo Cholby. Dans ce film, il y a un très très joli casting, en tout cas, et des jeunes très prometteurs et à la fois très ancrés dans ce réel qui nous perturbe aussi parfois, nous, spectateurs, où on s'imagine qu'en 2022, il y a encore des scènes de racisme et encore des choses qui font évoluer. J'espère que ce film, en tout cas, qui sera montré aux générations, pourra peut-être les amener à réfléchir, sans vouloir justement faire la morale, mais en tout cas pourra les amener à réfléchir, parce que c'est pas d'hier, en fait, tout ce qu'on vit, loin de là. On a vécu avec ça, finalement, toi et moi.
Oui. C'est ce qui est terrible, c'est se dire s'il y a 40 ans, on est dans les mêmes questionnements qu'il y a 40 ans, sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu pessimiste par rapport aux années 80, parce que finalement, le discours un peu radicalisé, ultra-violent, d'extrême droite était marginalisé à l'époque, là où maintenant, quelque part, je dirais pas qu'il est glorifié, mais c'est normalisé. Et donc, du coup, ça fait un peu peur. En 84, quand le FN fait 11%, limite, on se dit, oh là là, vers où on va? Aujourd'hui, on a 90 députés, tout le monde se porte bien. Donc, je trouve que c'est pas forcément des bons signaux de société. Voilà.
Quelle a été la scène la plus marquante? Est-ce qu'il y en a une qui, dans ta tête, t'a fait un sacré casse-tête? Pour le coup, c'est le cas de le dire. Et puis finalement, s'il est bien passé, ou peut-être souvent c'est le contraire, parce que c'est souvent les scènes où on se dit ça va être facile, où il se passe des choses qui sont pas prévues, ou au contraire des choses qui nous paraissent difficiles et qui finalement ont passé crème au tournage.
Bah en fait, ça va paraître un peu pompeux, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Les planètes se sont alignées sur le film. On n'avait que 35 jours pour faire le film. Il y avait des journées où j'avais que 8 heures pour faire un certain nombre de plans. Et on n'a pas eu d'anicroche, c'est-à-dire que le film a glissé de manière idyllique. Je souhaite à tout metteur en scène de faire un premier film dans ces conditions. On a eu 35 jours de tournage, 18 jours de nuit, 17 jours en journée. On a fait 15 heures supplémentaires en tout. Voilà, c'est à un moment donné, il y a un truc qui s'est aligné. On a beaucoup travaillé en amont, en préparation. Le film est très découpé, très préparé. Il y a eu des storyboards de fait, une réflexion sur la mise en scène qui était faite en amont avant d'arriver sur le plateau de tournage. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu de mauvaises surprises quand j'arrivais sur le plateau. Ni, on savait ce qu'on devait faire, quoi. Et donc, du coup, on a juste déroulé ce qu'on avait à faire. Et heureusement, parce que par exemple, quand vous verrez le film, par exemple, la scène du disquaire, c'est une scène qui est assez longue. J'ai dû la tourner en une seule journée, comme pour la scène aussi du quai du métro. C'est une scène où il y a 16 plans, on avait 8 heures pour le tourner et pas une minute de plus parce que c'est le temps qu'on nous donne la RATP pour tourner. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'on a eu de la chance, tout s'est passé sans anicroche.
Alors, vous allez voir, effectivement, je disais, Victor Meutley, comme vous l'avez jamais vu, certainement, il est impressionnant quand il a le crâne rasé et tout, il est vraiment très très impressionnant, Victor. Il y a une scène de fin, moi, qui m'a perturbé, qui est vraiment choc, c'était voulu, on va pas en dévoiler quoi que ce soit, évidemment, mais c'était voulu, justement, de vraiment marquer le coup à la fin du film.
Bah, en fait, dès le départ, avec Virak et Seb, nous, on voulait écrire une tragédie, mais pour le coup, vraiment une tragédie grecque, avec les codes de la tragédie grecque. Ce héros, en fait, qui est malmené par son destin, qui est pas maître de son destin, qui est érudit, quelque part, et aussi, quelque part, Frédéric. Et autour d'eux, en fait, les forces divines qui s'acharnent contre lui, tout finit finalement dans un bain de sang autour du héros. Et c'est l'idée, en tout cas, cette trajectoire assez radicale qui est dans la tragédie qu'on trouve, qu'on a voulu retranscrire dans ce film qui est pourtant très actuel, très contemporain. Mais en fait, quand on regarde dans la construction, c'est une pure tragédie.
On va la découvrir au cinéma. En tout cas, ça s'appelle Les Rascals. C'est le premier film de Jimmy Laporal Trésor qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jimmy, d'être passé nous voir. On va se quitter avec la bande-annonce. Et on se dit à très bientôt pour le deuxième, du coup.
Oui, à très bientôt.
Il y a des envies?
Ah, on verra. En fait, après, tout dépend du public. C'est vous qui avez les choses en main.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Ils portent leur blague sur leur maison, ces bouffons.
Hey les filles, 15 balles, il va se prendre un râteau.
J'avais une bande, ils étaient 100 les gars. Mandal il arrive, boum, il sort son flingue.
Et toi Ahmed, t'as fait quoi?
C'est Rico putain. Rico. Il s'appelle pas Loki lui?
On m'appelle plus comme ça depuis un bail.
Il a déconné Rico chez le disqueur.
Sérieux là? Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Je te rappelle pas?
Ouais, mais c'est pas la raison.
Il y avait écrit Rascal sur leur blouson. Celui qui a tabassé mon frère, c'était un dara, en tout cas.
Attends, tu l'as vu se faire démonter?
Ouais.
Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration.
Moi et mes potes, on va aller retrouver tes Rascals de merde.
Je vais être là. Faut qu'on le défonce.
Allez, Baya Kasmi, Michel Leclerc et Ramzi Bedia terminent l'émission avec nous. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Je serre les dents, je crains les oiseaux qui plombent le ciel, les tirs au sort, les innocents. Mes beaux efforts, tout ça n'est que pour toi. Mes jeux ne me font mal, je fais le mort comme un enfant. Et j'ai mal, je poursuis le combat. J'ai si mal, c'est pas vrai, non c'est pas vrai, c'est tort. Mon cogne, là où ça fait mal, moi j'hallucine à demi-mort. Les tirs m'ont du sourd, je pense à toi dehors et ça c'est tous les jours. Ma tête est mise à mort, me reste que l'amour. Le ciel m'accuse à tort et je paierai pour toujours le prix des années folles, la bêtise d'un homme dans son bel uniforme. C'est pas vrai, c'est taré. On dirait en plein mon idéal. Ne m'oublie pas, j'existe encore. Et s'ils te font la cour, pense à ton boy dehors qui pleure des beaux jours. Ma tête est mise à mort, me reste que l'amour. Le ciel m'accuse à tort et je paierai pour toujours le prix des années folles, la bêtise d'un homme dans son bel uniforme. Les qui dévorent les innocents. Mes beaux efforts, ils n'étaient que pour toi. Mes jeux ne me font mal, je fais le mort comme un enfant. Et j'ai mal, j'ai perdu le combat. J'ai si mal,
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Youssef Salem du succès de Baya Kasmi, qui est justement notre invité. Bonjour Baya.
Bonjour.
Et co-scénarisé avec Michel Leclerc, qui est notre invité également aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. C'est un film qu'on a eu la chance de voir en avant-première au Festival d'Angoulême il y a maintenant plusieurs mois. Et il faut dire que franchement, on a vu ça à 9h30 le matin. Et on a ri. Mais on a ri. Parce qu'on rit dans ce film. C'est une vraie comédie où un écrivain un peu raté, on peut le dire, a publié deux livres qui n'ont pas fonctionné du tout jusqu'au jour où il va publier un livre qui est une autobiographie où il en rajoute. beaucoup, notamment sur sa famille et sur sa vie. Mais sauf qu'il n'y a que lui qui est au courant, pas sa famille. Et ça va compliquer évidemment la situation, l'histoire de Youssef Salem. Alors, je disais, on a beaucoup ri. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, tous les deux, d'écrire et de réaliser cette histoire?
Voilà, c'est un peu un double, Youssef. C'est-à-dire que nous, on écrit tous les deux. Donc, on a déjà écrit des choses un peu inspirées de l'autobiographie. Tout le monde adore, quand on sort un film, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors, nous, on s'inspire toujours un peu de la réalité et on dit oui, non, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais oui, c'est un peu autobiographique. On essaye de ménager la chèvre et le chou. Et ensuite, voilà, on a vécu comme ça des expériences où c'était très compliqué pour notre famille de le vivre. Et on avait envie de s'amuser autour de ça et de créer ce personnage qui, effectivement, lui, il a écrit un roman, c'est de la fiction. Évidemment, on comprend qu'il s'inspire de sa famille, puis qu'il a raconté un peu toutes les choses qui sont cachées, comme font souvent les gens qui écrivent.
Et oui, c'est vrai, évidemment. Et puis les parents, bah, il va tout faire pour pas qu'ils tombent dessus, évidemment, sur ce roman. Quand on écrit à quatre mains, j'ai envie de savoir un peu comment on se répartit les tâches, tous les deux.
Oh bah, il faut savoir déjà qui fait le film, puisqu'on fait des films tous les deux. Donc parfois, c'est moi qui réalise le film, parfois c'est Baya. Et donc, celui qui ou celle qui réalise est quand même moteur. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'écris avec Baya, je me mets vraiment à son service. C'est-à-dire, c'est d'abord elle qui me dit « j'ai plutôt envie de ça, j'ai plutôt envie de ci ». Et donc, je pense que le co-scénariste est quelqu'un qui est d'abord en réaction et qui essaye de trouver le désir initial de la personne qui fait le film et essaye de le voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là pour imposer mes idées, ça c'est pas possible. Je suis là pour en proposer.
Baya, Youssef, c'est évident, Ramzi?
Ah oui, c'était évident, complètement. Ben parce que en fait, quand j'ai eu cette idée, j'ai pensé à lui immédiatement. Je lui en ai parlé. Il y avait quoi, 3 pages? Parce que effectivement, au début, moi, j'écris quelques pages. Il m'a dit oui, je le ferai. Parce qu'il est sympa, Ramzi, on s'aime bien. Donc il me dit, de toute façon, je le ferai. Et le scénario est arrivé 7 ans plus tard, parce que j'ai mis du temps à trouver des producteurs. On l'a écrit assez vite, mais il y a eu un temps d'inertie. Et voilà, donc j'ai écrit aussi avec, quelque part, l'image de mon personnage. Savoir que c'était Ramzi, m'inspirer de ce qu'il était capable de faire, parce que je l'avais déjà dirigé dans un film, c'était très riche.
Alors, il y a un super casting dans ce film. On y retrouve Noé Miloski, Mel Rabelia qui joue sa sœur. C'était drôle de retrouver le frère et la sœur comme ça, se puncher quand même.
Ah ben, on a beaucoup rigolé, c'est-à-dire qu'ils se sont bagarrés ou comme ils le font dans la vie. Ils m'ont donné ça et c'était très joyeux. Et eux, ils adorent. Bah, voilà, comme tous les frères et sœurs, on adore se chamailler. Et je crois qu'ils l'ont fait avec beaucoup de joie.
Bon, en tout cas, un très beau casting dans ce film que je vous invite à découvrir. Quels ont été vos meilleurs moments lors du tournage? Est-ce que Michel, déjà, vous avez été un petit peu sur le tournage? Est-ce que vous avez pu voir un peu les scènes que vous avez écrites se jouer devant vous?
Non, enfin, j'essaie d'y aller de temps en temps, mais j'essaie surtout d'être le plus discret possible parce que je suis pas là pour l'embarrasser en disant « Oh, mais attends, c'est pas la scène qu'on a écrite que tu tournes ». Donc, j'essaie d'y aller assez peu. Voilà, donc je suis plutôt de loin et le soir à la maison, quoi.
Mais non, mais il a quand même joué dans une scène. En fait, il est venu pour une scène où il joue un journaliste qui ménage la chèvre et le chou, qui aime tout le monde. Et on a beaucoup ri. Voilà, où il y a aussi Fuenquinos. On a beaucoup
ri. Reconnu.
Ouais, Arnaud Vivian. Enfin bref, on a beaucoup ri sur ces scènes-là.
Parce qu'il y a des scènes d'émissions littéraires dans le film où est accueilli Youssef Salem, bien évidemment.
Exactement. Et ces scènes d'émissions littéraires, en fait, c'était un peu des gros morceaux où il fallait qu'ils se disputent tous autour de la critique du livre de Youssef. Et c'est vrai que c'était une joie. Ils ont passé une journée entière à faire ce débat, à le refaire et le refaire dans les studios de Canal+. Donc ça, on a beaucoup ri. Et puis, moi, ouais, mes moments préférés, je dirais déjà tout ce qui se jouait dans la famille. C'était extrêmement joyeux parce que c'est recréer une sorte de famille idéale et où ils s'amusaient énormément. Très fatigant d'ailleurs, mais très drôle. Quand on a 10 comédiens sur un plateau, c'est extrêmement joyeux. Et en même temps, on est un peu...
On les gérer.
Ouais, c'est ça. C'est comme si on avait une grande colo de vacances. Et en même temps, c'est des super souvenirs. J'ai adoré aussi tourner les scènes de la piscine, qui étaient très dures à tourner, mais... c'était un gros enjeu et j'avais des petits frissons là quand on a fait ces scènes-là. Et puis le Goncourt avec Noémie Lovski et...
Noémie Lovski-Jolis, qui est l'éditrice de Youssef, hein, et qui va évidemment péter littéralement un câble, comme Noémie sait si bien le faire, face au succès de ce livre.
Oui, c'est ça, elle a une soirée qui était extrêmement longue à tourner, très drôle, parce qu'on a fait ça entièrement de nuit. Donc voilà, c'est l'éditrice qui demande à Youssef de surtout, parce que Youssef a un petit problème avec l'alcool hein, parfois, et donc elle dit à Youssef de surtout ne pas boire ce soir, parce que tout le monde le regarde. Et puis finalement, c'est elle qui boit un petit peu trop. Ça a fait des étincelles, voilà.
Bon, en tout cas, très joli film à voir, de la comédie. Moi, une scène que j'ai beaucoup aimée aussi entre Melra et Ramzy, c'est la scène où ils sont dans la voiture tous les deux. Et il se passe une engueulade, mais franchement, ils y vont. Et puis à la fin de l'engueulade, ils s'embrassent, ils se disent au revoir. Alors ça, j'ai trouvé ça mais très très drôle, en fait, de voir que la pression retombe d'un coup comme ça. Et ça devait être très très drôle à tourner aussi, cette scène de voiture.
Oui, on a énormément ri parce que, bon, ils sont quand même... terriblement drôle tous les deux, et puis ils ont rajouté et tout. Après, c'était une scène techniquement très compliquée, et particulièrement cette rupture en fait de ton où ils passent de la colère à, parce que tout simplement il fallait ralentir la voiture, et on était sur un espèce de lieu où c'était très compliqué de parce que les voitures traveling, c'est énorme, les comédiens peuvent pas conduire tout en faisant autant de textes, donc c'était un casse-tête technique, et donc une encore plus grande joie quand on a réussi à faire cette petite rupture de ton où ils s'embrassent après s'être parlé très très mal.
Il y a de jolies scènes aussi avec le papa de Youssef qui est joué, alors pour ceux qui ont vu le film Camping, vous reconnaîtrez certainement celui qui a essayé pendant des semaines, hein, on va dire, de réparer la voiture de Gérard Lanvin, qui jouait Mendes. Et on reconnaît effectivement le papa de Youssef, et il a un très très joli rôle effectivement dans ce film. C'est un grand plaisir de revoir ce comédien aussi.
Ouais, il s'appelle Abes Zamani et c'est un mec délicieux et extrêmement drôle, qui s'en est donné à cœur joie et qui est très touchant dans le film. Très drôle et très touchant aussi.
Ouais, c'est vrai, on est toujours à la limite, hein, effectivement, entre l'émotion et le rire avec ce personnage, effectivement.
Un personnage qui est très à cheval sur l'orthographe et qui est persuadé que son fils écrit des livres sur des héros algériens. Et donc, il s'est fait une image de son fils qui n'est pas du tout la réalité, puisque voilà, pendant que son fils, lui... un peu les 400 coups, enfin, et lui pense qu'il est vraiment d'une rectitude absolue. Voilà, donc c'est le décalage entre les deux.
Eh bien, on va continuer à en parler. Pour l'instant, on va déjà lancer la bande-annonce. Juste après, on va avoir la chance d'avoir Ramzy qui va nous rejoindre, évidemment, pour parler de son rôle. Mais Youssef Salem a du succès. Eh bien, ça sort ce 18 janvier au cinéma. C'est le film à ne pas rater. On va écouter la bande-annonce. Et merci encore beaucoup, Michel et Baya, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours.
Faut que je le dise à mes parents.
Comment t'as pu écrire un torchon pareil ?
Maman n'a jamais couché avec le maître nageur.
Je sais bien.
T'imagines si papa il tombe dessus ?
Ouais.
T'imagines le début.
Tu mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête.
Ouais. Putain.
Ouais. Qu'on t'élimine.
C'est moi, l'auteur, Youssef Salem.
Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais oui. Il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien.
Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît.
Alors, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur.
C'est une question de vie ou de mort.
Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe, voilà. Zarma, t'es écrivain, tu connais rien. Zarma, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est géniale.
Le critérium,
c'est quoi l'exemple que vous voulez donner ?
J'essaie juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts.
Allez, on continue à parler de Youssef Salem, du succès. Après Baya Kassmi et Michel Leclerc, Ramzy Bedia, chose promise, chose due, il est là avec nous. Bonjour Ramzy.
Salut Alain.
Merci d'être avec nous. Écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir à nouveau. Surtout que tu nous as beaucoup fait rire dans ce film, Youssef Salem. Quel rôle, drôle en plus.
Écoute, c'est un film qui me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait vraiment ma vie. Si on remplace, là je suis un écrivain, mais si on remplace écrivain par comédien, bah c'est ma vie. C'est l'opposition justement. C'est un mec qui a les pieds dans deux mondes. Un univers familial très, 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 très proche, et il est très attaché à sa famille. Mais c'est une famille avec des valeurs et des traditions. Une famille comme il y en a des milliers. Et en même temps, quand il sort de chez lui, il se retrouve dans un monde de paillettes et de lumière, il a un pied dans les deux, quoi. Et il faut qu'il mixe sa vie avec ça.
Baya et Michel me disent à l'instant que pour eux c'est une évidence que Youssef Salem, c'était toi, c'était Ramzy.
Écoute, je suis très flatté, mais de toute façon, je suis très flatté que Michel et Baya pensent à moi à chaque fois. Ça fait la troisième fois que je travaille avec eux. Je trouve que j'ai de la chance que ce duo de réalisateurs, auteurs, scénaristes pensent à moi, écrivent pour moi. Je trouve ça fabuleux.
En attendant, on a vraiment l'impression que tu t'es beaucoup amusé, en tout cas, sur ce tournage. Ça donne vraiment cette impression parce qu'on passe une heure et demie franchement délicieuse avec ce personnage de Youssef Salem qui nous emmène un peu partout, entre rire et émotion.
Oui, bah, mais c'est vraiment ma vie. Hein. Ça ressemble vraiment à... Oui, c'est ça. Le papa dans la série, on dirait, c'est la copie de mon père. La maman, c'est pareil. Il y a vraiment ma sœur dans le film qui joue ma sœur.
Oui, alors, c'est ce qu'on disait à l'instant, la scène de la voiture où vous engueulez et à la fin, vous vous embrassez à la fin. Et vous dites salut, c'était hyper drôle ça.
Ben c'est comme ben ça, c'est improvisé ça. Ça c'est improvisé, c'est les vrais rapports que j'ai avec ma sœur.
T'as mis beaucoup de toi Ramzi dans Youssef.
Ben c'est Baya qui a mis beaucoup de Ramzi dans Youssef. Et moi je me retrouve sur le plateau avec un scénario, je me dis mais merde, c'est moi tout ça, tout est moi. Du coup je suis très flatté. Alors c'est moi, si c'est vraiment ma vie, ça va pas être très intéressant. C'est ma vie fictionnée.
Quelle est la scène qui t'a fait le plus marrer?
La scène dans la cuisine. Où je suis en train de fumer en cachette pour pas que mes parents me voient, alors que j'ai 50 ans, et que mes frères et sœurs rentrent dans la cuisine pour m'engueuler par rapport au livre que j'ai écrit. Ça, c'est ma scène préférée. Parce qu'ils m'engueulent, ils me frappent, ma sœur me frappe, ils m'engueulent, alors que j'ai rien fait, quoi.
Et donc ton frère a pas ses baguettes de pain, d'ailleurs, ce qui t'en mettrait un coup.
Ah, le pauvre, lui. Lui, il est juste énervé parce que je parle pas de lui dans le livre. C'est ma scène préférée, c'est celle-ci.
En tout cas, il y a beaucoup de jolies scènes qui, c'est vraiment, on se partage entre humour et émotion dans ce film. C'est un ascenseur un peu émotionnel parce que vous verrez jusqu'à la fin, voilà, on est embarqué dans cette histoire. T'as eu des scènes avec Noémie Lvovsky, ils sont à mourir de rire aussi.
J'étais terrorisé de tourner avec elle. Terrorisé de tourner avec elle.
Impressionné?
Ouais, impressionné. Bah oui, quand même. Là, je sais que c'est une actrice, là. Là, elle, c'est une actrice. Donc, terrorisé. Donc, je savais mon texte à la virgule près. Et puis tu te rends compte qu'il suffit pas juste de jouer et de connaître son texte, il faut en plus amener autre chose face à Noémie parce qu'elle amène beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que c'est comme au tennis, plus on joue avec des forts et plus on est fort. Et là, de jouer avec Noémie, bah, j'étais content parce que ça me forçait à jouer bien, quoi.
Alors le film va appartenir au public, je suppose que tu as plein de projets pour 2023, qu'est-ce qui nous attend? On va terminer par ça.
Bon, on a Astérix qui arrive. Ah, je tourne actuellement une série pour Canal... de Xavier Giannoli. Et j'ai un film que j'ai fait pour Amazon, le nouveau film de Franck Gastambide.
Ah, super.
On a tourné en Colombie, j'en rentre de Colombie là d'ailleurs. Il s'appelle Medellin et c'est une énorme comédie d'action pour Amazon. C'est fabuleux.
Et qu'on verra en 2023 du coup.
Exactement. Cascade et rire. C'est comme ça que je le résume son film.
Voilà, en tout cas, Youssef Salem a du succès, ça va être émotion et rire qui nous attend. Vous avez passé une heure et demie, en tout cas délicieuse, et c'est au cinéma que ça sort, le nouveau film de Michel Leclerc, co-scénarisé par Michel Leclerc et de Baya Kassmi. Merci beaucoup.
J'aime beaucoup votre voix, je vous écoute à la radio et ça me fait plaisir de vous voir en vrai.
Ah, mais t'es un habitué, en plus de notre émission, ça fait toujours plaisir de t'avoir en tout cas. Merci beaucoup Ramzi.
Je t'embrasse Alain. Attends, on fait le bruit.
Allez.
Moi qui l'ai déniché,
oui, mais
ce génie.
Allez, c'est le dernier.
Tu trouves pas que la vie, c'est tout petit peu plus grand que ça?
Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis grand-mère?
Non, non, maman.
Ah, c'est... Vous avez écrit ce bouquet magnifique là?
Oui.
Je suis reconnue, je sais pas, cette famille.
Vous êtes une arabe?
Ça vaut pas, non, ah, ouais, je suis pas arabe. Non, moi je suis marseillaise.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ça sera l'événement avec Vaincre ou Mourir. Le producteur du film du Puy du Fou sera avec nous, accompagné d'Hugo Becker, le héros du film. Thibaut de Montalembert sera également avec nous pour nous parler évidemment de Piste Noire. On aura l'occasion de recevoir aussi l'histoire Annette Zellman avec toute l'équipe. Divertimento, Marie Castille, Mention Char sera notre invité. Une spéciale caméra café. On va pas s'ennuyer, hein, c'est sûr.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.